C'est merveilleux de louer notre Seigneur. Nous n'avons pas un autre qui peut nous donner la joie comme celui-là. Il nous donne la joie que le monde ne peut jamais nous donner. Alléluia. Je vous salue tous et toutes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous pouvons nous mettre debout pour commencer déjà avec notre prédication. Je vais lire dans 1 Samuel, 1 Samuel 3, 1 Samuel chapitre 3 au verset 4, 5. Je lis la parole. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie. Il dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. Voilà, donc je vais aussi ajouter donc au verset 9. Donc Samuel, va, couche-toi ici, on t'appelle, tu diras, « Parle. » Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de ses saintes paroles. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père, combien nous sommes dans la joie encore ce soir pour cette occasion que tu nous offres, Seigneur, de pouvoir nous retrouver autour de ta table. Ô Dieu, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Nous savons que ces quelques minutes que nous allons passer ici, Seigneur, c'est plus que tout ce que nous avons passé dans nos lieux de service. C'est plus que tout ce que nous avons passé dans nos maisons. Aide-nous maintenant afin que nous puissions attirer le plus de profits possible, Seigneur. Et que tu puisses venir faire des choses comme celle que tu faisais avant la crucifixion, puisque nous le savons, Seigneur, que tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours. C'est au nom de Jésus que je te le demande. Amen. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Je vais donc relire un peu ce que nous venons de lire là. Donc, je vais commencer au verset 8. L'Éternel appela. Ah, ça, c'est quand même quelque chose de merveilleux. C'est que l'Éternel peut appeler quelqu'un. Appeler, c'est désigner quelqu'un par son nom. Et j'appelle, par exemple, Nestor. Je suis en train de l'appeler. Et alors, j'utilise ma voix pour appeler Nestor. Cela veut dire que l'Éternel a une voix. Une voix que nous pouvons capter. Une voix que nous pouvons aussi ne pas capter. Alléluia. Et donc, il appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva et alla vers Élie et dit, « Mais voici, car tu m'as appelé. » Ce qui est vraiment étrange. Samuel était habitué par la voix de l'Éternel. Il était habitué à la voix du prédicateur. Voilà. Et cela veut dire que derrière ce que le prédicateur dit là, il y a une autre voix. C'est la voix de l'Éternel. Est-ce que vous avez déjà capté cette voix depuis que vous avez cru derrière la voix du prédicateur? Ou bien c'est juste la voix du prédicateur que vous avez toujours captée? J'aimerais que vraiment nous puissions commencer à chercher à capter cette voix qui est derrière la prédication, derrière les Écritures. Alors, je continue. Va, couche-toi, si l'autre appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et je souligne aussi ce verbe-là, ce verbe très, très important. Écouter, ça signifie prêter attention. Comme nous venons de voir qu'il peut y avoir
plusieurs voix, même au milieu de nous, parmi lesquelles il y a aussi la voix de l'Éternel. Donc nous avons tout intérêt à prêter attention pour que nous puissions capter la voix de l'Éternel. Alléluia. Alors le thème que nous allons nous partager, je vais l'intituler « Écouter sa voix ». C'est une prédication de Frère Branham, donc je vais me baser sur ça. Il avait prêché le 5 octobre 1958. Je ne suis pas Branham, personne ne peut l'être, donc je vais juste me baser sur ça. Alors, je vais subdiviser cela en trois parties. Donc, la première partie, ça sera les voix. Quelles sont les voix que vous avez l'habitude de capter? Est-ce que c'est la voix de l'Éternel? Ou ce sont les voix du monde, les voix parasites, les distracteurs? Il y a toujours des distracteurs et la bonne réponse. Dans le test, c'est comme ça. Donc, est-ce que ce sont les voix des distracteurs que nous captons ou c'est la voix de l'Éternel? Ça sera la première partie. La deuxième, alors, un autre jour, ça sera alors la voix de l'Éternel. Donc ça, c'est une seule voix. Tandis que les autres, c'est toute une multitude de voix. Et alors, une troisième partie, un autre jour encore, si Dieu nous l'accorde, ça sera alors l'importance d'écouter. Écouter, c'est un verbe très, très, très important pour nous, les chrétiens. Alléluia. Toujours est-il que C'est peut-être pour cette raison que le Seigneur nous avait donné deux oreilles et une seule bouche. Alléluia. Amen. Alors, c'est quoi la voix? C'est juste une définition que j'ai ramassée dans la documentation. La voix, c'est un ensemble de sons. Donc, produit par des cordes vocales, ça nous le savons. Ça peut aussi être tout objet, tout signe qui nous parle. Donc, une circonstance dit « Ah, cette circonstance me parle hein? ». C'est donc une voix que, justement, vous avez pu capter au niveau de votre cœur. Et c'est ça surtout, souvent quand nous venons à l'église, dit, « Ah, ça m'a parlé ». On ne sait pas comment la prédication vous a parlé. Vous êtes seul à le savoir. Alléluia. Amen. Et alors, la voix, c'est aussi tout signe, donc tout objet qui nous parle et qui nous inspire. Ou tout mouvement intérieur. Un mouvement intérieur qui peut te dire, non, c'est mauvais, il ne faut pas faire ça. Ou faites ça. Ce sont des choses que nous vivons tous les jours. Hein? Il faut seulement être attentif à ce qui se passe dans notre cœur. Il y a tellement de choses qui s'y passent. Alléluia. Alors, donc, comme je viens de le dire, il y a toute une multitude de voix. Et nous sommes dans, justement, cette civilisation et cette époque des voix et des voix, et c'est tout un défi hein, pour que nous puissions capter la voix de notre Seigneur. Et apparemment, toutes ces voix-là parlent un peu plus fort, pas un peu plus, mais toujours plus fort que la voix de notre Dieu qui est un murmure doux et subtil. C'est un murmure doux et subtil. Subtil signifie qu'il échappe à l'intelligence. Quand, par exemple, on demande, quand tu dis, mais il m'a parlé, tu ne sauras pas nous expliquer comment Dieu t'a parlé. Ça peut être même une voix audible, mais c'est là d'abord. Ça, c'est capté par le cœur. Amen. Alors, je vais commencer justement par parler un peu, comme je l'ai promis, de toutes ces voix-là, les voix du monde, les distracteurs. Et ces voix distracteurs-là ont la caractéristique, la tendance de vouloir justement nous empêcher d'écouter la voix de notre Créateur. Amen. Alors, je les appelle les voix du monde. Ce sont toutes ces influences séductrices et des distractions qui détournent l'homme de Dieu. C'est donc autant tous ces bruits-là, extérieurs et intérieurs, même à l'intérieur-là. Il y a des bruits, des inquiétudes, des pensées vagabondes qui ont tendance à étouffer la sainte voix de Dieu. Donc ce sont autant de bruits extérieurs et intérieurs de nos préoccupations, de nos désirs. Et là, quand je parle, chacun le sait, ce sont des choses que nous vivons au jour le jour. N'est-ce pas? Je ne sais pas si je suis en train de mentir. Alléluia. Amen, amen. Alors nous allons essayer d'étudier ces quelques voies aujourd'hui. C'est pour essayer de nous aider à pouvoir quand même nous fixer. Est-ce que ça c'est la voie de mon Créateur? Ou bien c'est une voie qui vient seulement pour me distraire? Et la première catégorie de ces voies, donc vous devez déjà les deviner puisque j'en parle toujours, c'est la voix de tous ces médias, la voix de tous ces réseaux sociaux, la voix de tous ces Facebook et ainsi de suite. Je l'ai dit puisque les prophètes de Dieu en avaient parlé. Il a parlé de ça dans la brochure intitulée « Que fais-tu ici ?» C'est prêché le 1er mars 1959. Alors, paragraphe 105, il dit donc, vous venez, bon, et qu'est-ce que vous attendez? Quelle voix écoutez-vous? Vous attendez à la télévision, la radio, vous lisez dans vos magazines, vos journaux, qu'un jour il y aura un tourbillon qui traversera ce pays. Toutes ces alertes, vous ouvrez la radio toute la journée. Voilà, et moi j'insiste sur ça. C'est que c'est apparemment ces choses qui nous préoccupent même le plus. Plus que la voix qui nous donne la vie éternelle. Toute la journée avec... Et le prophète, comme c'est dans ses habitudes, il appelle tout ça, toutes ces absurdités et ces tapages pour apprendre que les bombes vont tomber à tel moment et ainsi de suite. Voilà. Alors, frère Branham, il dit, moi, je n'écoute pas ces choses. Alléluia. Donc, je ne prête pas. Bon, il a des oreilles, hein, ça tombe dans ses oreilles. Mais ne prête pas tellement attention à ces choses. Mais frère Branham, tu prêtes attention à quoi maintenant? J'écoute pour attendre une voix qui me dise, hein, monte plus haut. Le travail a été bien fait, mon bon et fidèle serviteur. C'est ça la voix qu'il aime bien écouter. Je ne sais pas si c'est la voix que tu aimes aussi bien écouter. Plus que toute autre voix. Il ne faut pas mentir. Hein. Si ce n'est pas ça, tu dis non, non. Seigneur, aide-moi, parce que les voix qui me préoccupent, c'est les médias. Il faut être sincère pour que le Seigneur puisse nous aider. Puisque là, bon, si je dis non, c'est la voix de Dieu qui m'intéresse, là, bon, je vais tromper seulement mon frère ou ma soeur, mais je ne tromperai jamais Dieu. Je ne vais pas me tromper moi-même aussi. Hein? On ne peut pas. Il faut seulement dire ce qu'il y a. Pour que le Seigneur puisse nous aider. Amen. Alléluia. Voilà que, donc, ce que je viens de lire là, je pense... Oui, il continue. Vous savez, je pense que nous sommes tellement intéressés à écouter très attentivement toutes les choses du monde et des choses comme celles que nous ne pouvons pas, et comme celles-là, que nous ne pouvons pas entendre cette douce petite voix. Donc, nous nous préoccupons tellement. Parmi ces choses, il y a de bonnes et de mauvaises choses, bien sûr. Mais la première préoccupation, si vraiment c'est ça, et ce n'est pas la parole de Dieu pour un chrétien, il y a un problème. à ce moment-là. Voilà, même si c'est une bonne chose socialement parlant, mais si c'est la première place, ah, vous savez à qui nous devons réserver cette première place. C'est à Jésus-Christ, pas quelqu'un d'autre. Alors, vous voyez, ce que je viens de lire là, le frère Branham, bon, c'est à 1959, il y a longtemps. Je ne sais pas ce qu'il dirait aujourd'hui, puisque la technologie a rapport avec les médias, les réseaux sociaux, s'est développée terriblement. Aujourd'hui, on parle de Twitter. Je ne sais même pas. Je suis en train de parler comme un perroquet, moi, je ne m'y connais pas tellement. Les Twitter, les Internet, les Facebook, les mails, les SMS et toutes ces choses. Il allait parler de tout ça. Et le problème, c'est que ces choses ont cette caractéristique de nous faire vivre ce que Romains 12, 2 nous défend. On peut lire Romains 12, 2. Romains 12, 2. Romains 12, 2 dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc, les voies du siècle présent ne peuvent pas nous aider pour que nous puissions être transformés. Nous avons suivi ça par le pasteur qui disait « la parole transforme ». Tandis que ces choses-là vont faire, ils auront un effet contraire, ils vont déformer. Ils vont nous déformer. C'est la parole qui nous transforme. Alors, donc, ces médias, ces réseaux sociaux nous poussent souvent, par exemple, à nous conformer aux tendances du monde. Hein? Comme le monde aujourd'hui, c'est les gros écrans comme ça. Moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Hmm? Comme le monde, c'est je ne sais pas ça. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Ah. Et c'est ce qui nous empêche d'écouter la petite voix. Et c'est cette petite voix qui a tous les secrets possibles. C'est cette petite voix qui a le secret même de la guérison. Puisque derrière toutes ces écritures, il y a des voix réelles, véritables. Même cette écriture qui dit « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous guérit de toutes vos maladies », aussi longtemps que ce n'est qu'une répétition, vous n'allez pas être guéri. Il faut que ça vous parle. Quand ça vous parle, d'une manière spirituelle, la guérison est automatique. Alléluia. Amen. C'est automatique. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour tromper. Alléluia. Le problème, c'est que c'est juste une écriture. Non. Jésus-Christ n'est pas juste une écriture. C'est une personne vivante qui continue à parler jusqu'à aujourd'hui, au travers de ses écritures. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Maintenant, c'est où est-ce que je suis? OK, ça c'est la voix. Je vais abandonner un peu cette voix-là, ces voix-là. Alors, il y a aussi la voix, les voix de l'intellectualisme. Frère Branham, bon, nous tous on a étudié, mais c'est ça, il disait, et pas à l'université, c'est pas loin de Dieu, souvent. Parce que on devient très carré là, et chaque chose doit toujours réfléchir, raisonner. Et devant la parole de Dieu, ça commence maintenant justement à intervenir. On doit réfléchir, raisonner pour la parole de Dieu et tout ça. Voilà. Et ça, c'est l'intellectualisme. L'intellectualisme, c'est un ensemble de voix qui est vraiment admiré, qui attire le plus de gens possible. C'est ça qui est à la base même de toutes les politiques de la Terre. C'est ça qui est à la base de ce qu'ils appellent les progrès socio-économiques, et ainsi de suite. Pour cela, nous allons lire, par exemple, Apocalypse 13. Apocalypse 13, au verset 13, il est dit ceci. Elle opérait, ça c'est la bête qui vient de la terre. Elle opérait des grands prodiges. Et la science est en train de faire des choses donc devant lesquelles tous nous disons, waouh, ah, comment ils ont pu vraiment trouver ces choses, hein? Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée. Voilà, ça c'est les États-Unis donc. Une nation vraiment avancée, de telle manière qu'il y a certaines personnes qui disent, non, mais et je voyais un frère là qui était venu faire un job ici, il dit, mais alors ta famille, ma femme est aux États-Unis, mais pourquoi elle ne vient pas? Là, on dit que ben, les États-Unis, c'est le top, mais qu'est-ce que moi, je peux aller faire à Belgique? Voilà. Donc, il y a tellement de choses que les gens disent, non, c'est ici où nous devons rester. Donc là, il faut descendre. Ce sont les bombes qu'ils ont là, qu'ils ont fait même larguer sur le Japon et ainsi de suite. Donc des bombes atomiques, des bombes à hydrogène. À cela que vous devez ajouter maintenant l'Union européenne, quand ils se mettent ensemble, mais c'est terrible. Et là, l'Union européenne, c'est la bête maintenant qui vient de la mer. Hein? Bon, ça, je vais lire alors au verset 3. Non, je peux commencer. Oui, 3, un peu en bas. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête? Donc, les gens adorent la science. Qui est semblable? Parce qu'il faut tellement de choses extraordinaires. Et nous, les chrétiens, si vraiment vous êtes entrés dans la nouvelle naissance, si vous êtes entrés derrière le voile, mais quand vous regardez toutes ces choses, il y a plus que ça. Les choses de Dieu, c'est beaucoup plus merveilleux. Vous n'allez pas chanter comme eux. Ah, qui est semblable à la bête, mais nous chantons qui c'est CD 149, il dit qui est puissant comme toi, éternel notre Dieu, qui est semblable à toi, parce que quand vous entrez là, vous voyez que c'est ce que les hommes appellent grâce, et rien du tout, c'est Dieu qui est le plus grand, le Dieu tout puissant. Alors donc là, c'est juste pour vous dire que c'est l'intellectualisme parle beaucoup aux gens et c'est justement pour essayer de nous éloigner, des dieux. Vous voyez par exemple l'avion. Nous tous nous sommes montés là-dedans. Quand vous voyez, oh, comment ils peuvent, un gros appareil comme ça peut voler. Et vous savez ce que signifie avion? C'est une abréviation. Hein? A, appareil. V, volant. Avion. I, imitant. L'oiseau naturel. Vous voyez, quand vous êtes en train d'adorer l'avion là-bas, vous oubliez. Vous oubliez justement la chose à partir de laquelle l'avion a été imité. C'est l'oiseau. Hein? Et ils n'ont fait qu'essayer d'imiter. Ils ne parviendront jamais à créer un oiseau. Puisque l'oiseau, lui, a la vie. Amen. Et quand il se déplace, est-ce qu'il a besoin de pilote? Est-ce qu'il a besoin de télé centrale, une télé centrale de direction? Jamais. Est-ce qu'il a besoin de carburant? Mais c'est plus merveilleux. Mais comme Tous les regards, c'est sur l'avion, c'est fini, on oublie. On oublie la chose même à partir de laquelle on avait imité. On oublie Dieu. Voyez comment ces choses nous éloignent un peu. Amen. C'est ça donc. Avec la science, même quand nous l'introduisons dans la parole ici, on ne connaîtra jamais Dieu. C'est le prophète qui l'a dit. C'est ce qui était arrivé à Moïse. Donc, parce que ça s'introduit aussi dans la science, vous verrez quelqu'un là, vraiment, il connaît toute la Bible, toutes les écritures, toutes les brochures. Ça, c'est la connaissance scientifique. C'est la connaissance scientifique. Et ça, ça ne va pas me donner la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas qu'ils connaissent les écritures. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. C'est connaître la personne dont parlent les Écritures. Alléluia. D'ailleurs, on critiquait beaucoup les frères Branham. Mais toi, tu ne connais pas ta Bible, monsieur. Hein? Mais tu ne connais pas les Écritures. Dis bon, ça, ce n'est pas un problème pour moi. Mais je connais au moins la personne qui a écrit la Bible. Alléluia. Amen. Il connaît la personne. Si la personne qui a écrit la Bible me révèle ça, il va le faire. Hein? Quand vous connaissez les donateurs, c'est ça l'essentiel. Alléluia. Amen, amen. Je suis en train de surveiller toujours. Voilà. Donc, vous voyez, c'était ça le problème de Moïse. Hein? On va lire un peu dans Acte 7. Moïse a été vraiment formé correctement dans toute la sagesse des Égyptiens. Il a été fort, puissant en parole, puissant en œuvre. On va voir ça dans Acte 7. Acte 7. Voilà. Acte 7, on va commencer à quel verset là? Verset 22. Alors, Moïse fut instruit dans toute la sagesse, pas une partie, c'était savoir, dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant à parole, quand il parlait là même. Quelle éloquence! Et en œuvre, c'était ça Moïse. Mais aussi longtemps que vous restez dans cette situation-là, Dieu ne peut pas vous utiliser. Et il est resté presque là-dedans pendant 80 ans. Donc il y a eu 40 quand même en Égypte, mais les autres 40, il est allé les passer ailleurs. Mais 80 ans, il n'a pas connu l'Éternel avec toute cette sagesse-là. Voilà. Dieu n'utilise pas notre sagesse. C'est ainsi que, même pour Paul, il a d'abord lavé tout ce que Paul avait appris auprès de Gamaliel avant de l'utiliser. C'est ainsi que Paul pouvait dire, tout ce que j'ai appris là-bas, je le considère maintenant comme de la boue, à cause de l'excellence de la révélation. La Bible à Lingala dit, donc je considère ça comme des excréments. Donc pour dire qu'il faut même en avoir un dégoût, pour avoir le goût de la parole. Alléluia. Amen, amen. Donc, voilà. Et Moïse, il était fort à tout ça. Quand Dieu a vu ça, il dit, cet homme ici, je ne saurais pas l'utiliser comme ça. Voyez maintenant après, quand Dieu commençait à s'approcher pour chercher à l'utiliser, qu'est-ce que Moïse est devenu. Moïse, on va voir Exode, hein? Exode 4. Exode 4, verset 10. Et Moïse dit à Dieu, 11, qui suis-je? Voilà. Je vais chercher juste pour ne pas prendre beaucoup de temps. Oui, c'est dit ça. Maintenant, je t'enverrai. Et Dieu dit, je serai avec toi. Et voilà. C'est lui. Où est-ce qu'il dit qu'il ne sait pas parler là? Hein? C'est 10, hein? C'est verset 10. Ah, cette Bible ici est terrible. Va, maintenant, va, c'est ça. Hein? Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Moïse dit, qui suis-je pour aller vers... Ça commence comment? C'est, oh là là, je suis à l'Exode 3. C'est Exode 4. Hein? Ok. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Car Dieu a vu ça et dit, voilà, mon test a vraiment bien pris. Maintenant, je peux t'utiliser. Puisque avant, avec ta parole là, tu pensais que tu pouvais faire quelque chose. Nous ne pouvons rien sans lui. Parce que la Bible le dit, sans moi, vous ne pouvez rien du tout. Et c'est à partir de ce moment alors que Dieu l'a utilisé. Parce qu'il n'utilise pas toutes nos sagesses là. Toutes nos sciences. Lui, il a une science exceptionnelle qui dépasse tout attendement. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Et je vais sauter ça. Voilà. Alors, il y a beaucoup de voix comme ça. Je peux parler d'une autre catégorie de voix. Voilà. Il y a la voix, les voix des travaux ménagers. Puisque tous nous avons justement des travaux ménagers. Quand nous sommes ici, hein, il faut oublier toutes ces assiettes que vous avez laissées à la maison. Il faut oublier tous ces habits qui sont dans la machine à laver. Sinon, vous allez louper tout ce que le Seigneur a mis en réserve pour vous. Le Seigneur a un message particulier pour toi. Il a un message particulier pour moi. Maintenant, ce qui va l'empêcher de capter ce message, ce sont les voix des assiettes, les voix des machines à laver, et ainsi de suite, ces choses que nous avons laissées à la maison. Et c'est ça qui avait dérangé un jour la sœur Marthe. On va essayer de lire un peu à ce sujet. Marthe, c'est Luc. Hein? Voilà, je vais chercher le verset. C'est Luc 10, quelque chose comme ça. Luc 10. Notre sœur Marthe. Ah, les 67. Marthe, ça commence où ça? C'est 10:38, hein? Ok, voilà. 10:38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, hein, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Très bien, Marthe. Vraiment, c'est ça ta particularité, Marthe. À partir du moment où c'est pour Jésus-Christ, tu as fait une bonne chose, d'accueillir Jésus-Christ dans ta maison. Félicitations, Marthe. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Oh, Marie, encore une fois, Marie, toi aussi. Très bien. Tu fais quelque chose de très bien. Puisque tu fais ça pour la gloire du Seigneur. Tout c'est pour la gloire du Seigneur. À partir du moment où tu fais quelque chose pour sa gloire, Dieu est dans la joie. Si tu es en train de balayer la salle ici, pour la gloire du Seigneur, c'est un grand travail. Et le Seigneur va te récompenser. Peut-être même plus que les prédicateurs. C'était travail. Vous savez que l'adoration, là, donc, il y avait dans la Bible, on a pris beaucoup de temps pour lire, il y avait une dame, une veuve, là, du nom de Anne. On dit qu'elle passait tout son temps au temple, nuit et jour. Il priait, il jeûnait. Et la Bible dit, c'est comme ça qu'il servait l'Éternel. C'était ça son ministère. Parce que nous, chrétiens, nous sommes comme des médecins. Donc, tout médecin spécialiste, il connaît des généralités de la médecine. Hein? Et on nous demande aussi, par exemple, d'accueillir les gens, exercer l'hospitalité. Mais il y en a qui ont ça comme ministère, comme spécialité. Et je pense que c'était ça la spécialité de Marthe. Oui, très bien. Et on nous demande de prier, nous tous. Tout chrétien doit prier, mais il y en a qui ont ça comme ministère. Donc, quand lui prie là, vous ne saurez pas prier comme lui. Donc, c'est tout le temps qu'il est à prier. Hein? Ce n'est pas qu'il est supérieur à vous. Vous aussi, vous avez votre particularité que vous devez chercher à découvrir. Alors, Marthe, très bien. Marie, très, très bien. Et nous continuons maintenant. Elle avait une sœur nommée, ainsi de suite. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit. Ah, ça commence à être un problème. Tu abandonnes ton ministère, Marthe. Qu'est-ce qui ne va pas? Marthe survint et dit, Seigneur. Oui, ça c'est bien quand même que tu l'appelles Seigneur. Oui, mais est-ce que ça vient de la bouche ou bien du cœur? On va voir. Cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Ah, des reproches même au Seigneur. Il reproche le Seigneur de gloire. Lui qui connaît toutes choses. Aussi longtemps qu'il était en train de faire son travail là-bas, le Seigneur, ce n'était pas un problème. Au contraire, le Seigneur était content. Mais le problème, il abandonne son ministère pour aller déranger le ministère de quelqu'un d'autre. Oh, Marthe! Et il ne s'arrête même pas là. Dis-lui donc de m'aider. Oh, mais tu exagères, Marthe! Donc, que Marie abandonne l'adoration pour aller t'aider. Mais, et Jésus alors? Jésus va rester seul là. Si c'était un frère Flavien petit là, ça pouvait se comprendre. Mais pas Jésus. Jésus, c'est un autre, pas comme les autres. Jésus, c'est une personne pas comme les autres. Quand il arrive ici, hein, chacun doit faire selon, justement, la particularité qu'il lui a donnée. Juste pour que Jésus puisse être servi. Voilà. Donc, ce qu'il t'a donné comme particularité, tu le fais. Alors, Jésus est content. Aussi longtemps que Marthe était là, en train de travailler, Jésus était dans la joie. Mais, oh, Marthe a loupé. Il est maintenant, elle est venue, elle voulait même interrompre l'adoration. Donc, l'adoration est moins utile que les sannes, les assiettes. Donc, qu'elle laisse l'adoration pour les assiettes. Non. Oui, si c'était peut-être la sœur, je ne sais pas, Jemima, qui est venue rendre visite à la sœur, je ne sais pas, Annie ou quoi, alors qui regarde la télévision, vous pouviez dire, non, mais c'est assez quand même avec la télévision, venez quand même m'aider. Mais Marie faisait service. Et là, vous savez que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Jésus n'était pas content. Jésus a dit ceci. Marthe, il a répété deux fois. Quand papa répète deux fois, vous devez savoir qu'il y a un problème. Même juste le fait de vous regarder deux fois comme ça, dit, ah, ça n'est fait de moi aujourd'hui. N'est-ce pas? Marthe, Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites. Il n'a pas reproché Marthe au sujet du fait qu'il fait les assiettes quand Marie est là. Il dit, mais ce sont les agitations, les inquiétudes. Donc, quand Marthe, toi, tu es venu dire, Seigneur, dans le cœur, là, c'était les assiettes, c'était je ne sais pas quoi, les savons, c'était... Vous voyez, aussi longtemps que dans le cœur, ce sont les assiettes, ce sont les savons, et ainsi de suite, votre adoration, votre service est vain. Puisque la Bible dit, ce peuple mon ordre lève, mais son cœur est éloigné de moi. C'est afin qu'il me rende. Aussi longtemps que dans le cœur, ce sont les assiettes, ce sont justement les machines à laver, et même votre prière est bâclée. N'est-ce pas? Ça sera seulement dans la bouche. Mais dans le cœur, vous avez machine à laver. Vous avez je ne sais pas quoi. Alors que dans le cœur, ça doit être Jésus. Pour que la prière monte. Aussi longtemps que ce n'est pas ça, ça sera une récitation. Hein? Vous êtes seulement en train de réciter. Parce qu'on s'adresse à lui qui est dans le cœur. Alors là, quand vous vous adressez à lui, il est là dans le cœur, il va vous répondre et votre prière sera justement un dialogue. Alléluia. Amen. Voilà donc le problème des voies de ménage, des préoccupations. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais faites ça en chantant les cantiques avec joie. Là, vous êtes en train de servir Jésus-Christ tout à justement, en faisant vos ménages. Et Jésus est dans la joie. Mais oui, mais le problème, c'est que lui, il voyait comme si l'adoration n'était pas importante. Mais et l'adoration, et les instruments, ce qu'il faut ça, chaque fête est service complet pour l'Éternel. Et l'Éternel dans la joie. Il n'y a pas de petits ou de grands services. Tous les services pour Dieu, c'est très, très important. Voilà. Même un verre d'eau. Vous voyez, il dit que, et nous avons déjà oublié des années, des gens qui nous ont fait même un verre d'eau. Un verre d'eau que vous aurez donné à l'un des plus petits de mes serviteurs, c'est moi que vous aurez donné. Dieu n'oublie jamais ces choses-là. Amen. Alléluia. Donc, ce sont des voies comme ça qui nous empêchent d'aller très loin avec notre Dieu, les préoccupations ménagères, et ainsi de suite. Et voilà. Et alors, la Bible, donc comme je venais de vous le dire, la Bible dit justement que et le cœur, quand le cœur est éloigné, alors c'est à vain. Puisque, en fait, Dieu est caractérisé comme ceci, car plus vous vous approchez de lui, comme le dit Jacques, il s'approche. Approchez-vous de moi, moi aussi je m'approcherai. Hein? Quand vous vous approchez, il s'approche. Et quand il s'approche, toutes les autres voies là s'éloigne. C'est ainsi que quand, justement, vous êtes en train de lire votre Bible, là, le frère François Pasteur l'avait dit ici, et ça m'avait vraiment parlé, il dit, Dieu n'est pas loin quand vous êtes en train de lire l'Écriture. Et c'est vrai. Quand vous commencez à lire comme ça, il est là. Comme il avait fait pour l'Énique éthiopien. Il est allé directement aviser Philippe. Et voilà. Et cela veut dire comme ceci. Donc, quand vous commencez à lire aussi, je ne sais pas, les YouTube, les Facebook, les diables n'est pas très loin. Ça, vous les voyez toujours. Hein? Vous êtes en train de suivre même peut-être des actualités là. Flash, pff, femme nue. Je dis, mais quel est le rapport entre ce que je suis en train de lire et tout ça? Tu vois, le diable n'est pas loin. Et alors, le contraire, quand vous lisez la parole de Dieu, Dieu n'est pas loin. C'est pour cette raison qu'il ne faut jamais, justement, oublier ces livres de vie dans nos maisons. Donc, il faut habituer nos enfants, nos époux, nos épouses avec ça. Il y a des choses là-dedans, des choses inouïes, des choses extraordinaires. Ça, c'était un livre miracle. Amen. Alléluia. C'est Dieu même sous forme des Écritures. Alléluia. Amen. Et je vais terminer peut-être par une autre voix, les autres voix qui nous dérangent. Ce sont les voix de la religion. Les nous. Dieu n'est pas dans ces nous-là. Nous, c'est toi. Hein? C'est une relation personnelle. Mais les nous, ce sont les imitations. Alors, je vais essayer de lire un peu l'histoire de Ruth. Ruth avec Orpa. Vous connaissez l'histoire, ces deux femmes. Elles ont accompagné, elles ont suivi leur belle-mère, Naomi, le type d'Israël. Alors, il y avait Ruth, il y avait aussi Orpa. Ça se trouvait Ruth. Ruth au premier chapitre. Alors, Ruth, premier chapitre, au verset 6. Puis elle s'éleva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple, il lui avait donné du pain. Donc toutes les deux femmes se sont levées, ils ont quitté Moab. Donc ce n'est pas encore ça qui est suffisant, ce n'est pas ça le signe. Puisque nous allons découvrir par après que justement, de ces deux femmes, il y a une qui est retournée vers ses dieux, vers ses coutumes. Alors, au verset 7, « Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses belles filles, et elle s'est mise en route. » Toutes les deux se mettent en route. Donc, un esprit religieux, c'est un esprit là vraiment que vous avez difficile à discerner. Hein? Donc, tous nous faisons la même chose, mais il y a ceux qui ont juste la religion, et c'est là qui ont la révélation. Voilà. Donc, elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Alors, je vais sauter. Voilà. Non, bon, je peux continuer au verset 8. Et Dieu a une bonne technique pour tester ça. Il n'y a que Dieu qui sait tester les choses-là. Naomi, le premier test, c'était celui-ci. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous. Ah, en tout cas, c'était le premier. Il commence maintenant à vouloir se débarrasser de ces deux dames. Mais voyez, toutes les deux ont refusé, hein? Même Orpa. Et Orpa était dans la religion pourtant. Mais Ruth était dans l'attachement. Parce qu'il y a le verbe qui est là, qui vient après, que Ruth était attachée. C'est ça la différence. Donc, alors, au verset 9, un peu en bas, elle les baisa, elles élevèrent la voix et se mirent à pleurer, tous ont pleuré. Ce n'est toujours pas ça le signe. Vous pouvez pleurer, mais peut-être vous êtes dans la religion. Et elles lui dirent tous, hein, non, nous irons. La confession, ça vient seulement de la bouche. Mais Orpa était dans la religion. T'es toujours en train de dire non, non, mais. Et ne suivait que Ruth, l'esprit imitateur, l'esprit de nous. Et Dieu, justement, ne pourra jamais nous utiliser comme ça. Hein. Dans ce bloc, dans le nous, Dieu t'utilise toi seul. C'était une relation personnelle avec notre Créateur. Alors là, finalement, le deuxième test, comme Naomi continuait justement à vouloir que ces deux dames retournent, Naomi a commencé à leur dire, voilà, là où nous allons, est-ce que vous aurez encore des maris, hein? Vous savez que En Israël, on ne se marie pas n'importe comment. Hein? Dans la parole de Dieu, on ne se marie pas n'importe comment. Et sans doute que Orpa a commencé à dire, « Ah, c'est comme ça dans votre message. » Donc, c'est comme on l'a dit au Congo, dit, vous négligez vos femmes. Vos femmes sont très donc vous les, il n'y a pas de rouge aux lèvres et tout ça. Il y a des femmes qui disent, si mon mari accepte ce message, je vais divorcer. Même pas de rouge aux lèvres. Même pas de boucles d'oreilles. Mais comment une femme peut être belle? Hein? Voilà. Quand Orpa a commencé à attendre et tel message, il dit, ah, il faut retourner seulement. Hein? Est-ce que moi, je saurais? Hein? Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas contente d'être comme ça, mes bien-aimées sœurs? Alléluia! Amen, amen! Oui, nous on trouve que ce sont les belles, les plus belles femmes qui puissent exister. Mais au monde, on dit non, 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 non. Vous négligez vos femmes. Il dit non, Dieu dit que c'est vrai. C'est ça la beauté de Dieu. Nous, la beauté, c'est le caractère d'abord. Voilà. Alors, la religion, finalement, justement, Orpa est retourné parce que lui n'avait que la religion. Et là, c'est l'esprit de foule. La voix de la foule. Et c'est un esprit qui ne va pas rester longtemps quand la parole de Dieu commence à être donnée comme ça. Vous voyez, il y a ce frère, le frère François avait parlé aussi de... Quand Jésus parlait à la foule, mais partez. Comme ils avaient l'esprit de la foule, ils sont quand même partis. Vous partez comme ça juste avec des paraboles. On ne vous a même pas expliqué. Mais Pierre, quand on lui a dit, mais partez, Pierre a dit, mais à qui d'autre irions-nous? Même si c'est difficile, nous n'avons rien compris. Mais à qui d'autre irions-nous? Voyez, Pierre n'avait pas l'esprit de la foule. Voilà, nous allons nous arrêter là parce que le temps est en train d'avancer. Parce qu'après, nous allons parler... L'autre jour, que Dieu nous donnera de la voix lors de l'Éternel. Nous allons nous mettre debout pour adorer un peu notre Dieu, parce que nous venons ici pour l'adorer. Nous allons vraiment lui demander de nous aider, à faire de sa parole le centre de nos préoccupations, puisque nous voulons, nous aussi, attendre sa voix. Nous voulons avoir aussi ces oreilles qui puissent attendre ce que l'Esprit dit aux églises. Il en a beaucoup parlé dans l'Apocalypse. Alors, je voudrais que chacun puisse élever la voix en disant, Seigneur, donne-moi ces oreilles-là dont tu parles tant dans la Bible, pour que moi aussi je puisse capter la voix de l'Éternel. C'est une voix qu'on capte dans le cœur. Il peut permettre que ce soit audible, mais c'est toujours sa communication avec le cœur. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ce beau moment que nous venons encore de passer autour de ta parole, le moment où tu nous as parlé de toute une multitude de voix. Oui, Seigneur, nous sommes bombardés par toute une multitude de voix. Et c'est tout un défi pour nous, Seigneur, de pouvoir capter le murmure doux et subtil qui est ta voix. C'est pour cette raison, ô Dieu, mon Créateur, je te demande, Seigneur, d'éveiller mes oreilles afin que je puisse écouter comme écoutent les disciples, que je puisse être à même, Seigneur, de capter la voix qui se trouve cachée derrière les Écritures, la voix qui se trouve cachée derrière la prédication. La voix qui se trouve cachée derrière les cantiques, la voix qui se trouve cachée derrière tout, parce que j'ai appris, Seigneur, que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Accorde-nous cela, Seigneur. Oh Dieu, puisses-tu nous venir en aide? Tu connais notre nature, tu sais combien nous sommes faibles, tu sais toi-même, Seigneur, oh Dieu, la matière dont tu nous as constitués. Mais nous venons auprès de toi, puisque nous savons, Seigneur, qu'il n'y a que toi qui peux nous aider. tes fils et tes filles, Seigneur, sont venus pour t'écouter. Maintenant, mon Dieu, ne permets pas que, Seigneur, elles puissent retourner comme les gens de la foule, qui sont retournés comme ça avec des paraboles, au lieu de rester pour attendre la voix derrière ces paraboles. Oh Seigneur, merci. Que la voix de l'Éternel puisse continuer à nous parler jusque dans nos maisons, Seigneur. Que la voix de l'Éternel puisse continuer à nous parler jusque dans nos lieux de service. Que la voix de l'Éternel puisse continuer à nous parler même quand nous contemplons la nature. Parce que la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Oh Seigneur, merci. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci donateur de tout don excellent. Merci pour ton amour, ta miséricorde. Merci Père. S'il y a quelqu'un qui a vraiment un besoin dans son cœur, il est très très embêté par toutes ces voix de Facebook, des travaux ménagers, donc qui l'empêchent même de prier. Toutes ces voix, ces passés vagabondes, quand il est ici à l'église, il ne sait vraiment pas se concentrer pour capter la voix de Dieu. Qu'il lève sa voix, sa main maintenant. Il ne faut pas avoir honte, puisque moi aussi, je lève ma main, puisqu'il m'arrive si souvent même d'être distrait. Voilà. Dieu notre Père, je lève aussi ma main. Tu me connais, tu sais, Seigneur, que je suis si souvent aussi distrait. Et je te demande de m'aider, Seigneur. Toi qui es celui qui avait aidé Élie, ton serviteur, afin que Père ne puisse pas aller se prosterner devant tous ces grondements de feux de brousse, tous ces grondements de tremblements de terre, tous ces grondements, oh Dieu, de vent impétueux, et qu'il puisse attendre que le murmure doux et subtil puisse arriver. Aide aussi mon frère, Seigneur. Aide ma sœur, puisque nous voudrions vraiment te connaître dans ta puissance de résurrection. Nous avons appris, Seigneur, que le secret de toutes les choses, c'est cette petite voix qui est derrière les Écritures. C'est cette petite voix qui est derrière la prédication. Et c'est ce que nous ratons si souvent, Seigneur. Et aujourd'hui, nous ne voulons plus rater cela. Et nous te demandons de nous aider, Seigneur. Bénis cette église. Bénis le pasteur que tu as établi. Oui, Seigneur, comme pasteur dans cette église, mon bien-aimé frère François. Bénis son ministère. Bénis sa famille, Seigneur. Bénis les familles, oui, de tous tes enfants. Ils ont sacrifié de leur temps et de leur énergie pour toi. Seigneur Jésus, puisses-tu les récompenser, puisses-tu leur donner au centuple tout ce qu'ils ont pu vraiment, Seigneur, oh Dieu sacrifié. Accorde-nous cela, et sur le chemin de retour, retourne avec nous. Que le règne, l'honneur, la gloire ne retournent qu'à toi. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et allez dans la paix de notre Seigneur. Alléluia. Merci.